Il y a Anja, je pense que tu connais, qui fait des trucs super, maison standard pour des basiques. Il y a une marque qui s'appelle Monographie, c'est magnifique. Moi, je vais plus jouer autour de ça.
L'épisode que vous allez entendre est réalisé en partenariat avec DIM. Cette marque iconique, qui vient de fêter ses 60 ans, vous offre à cette occasion 20% de réduction sur l'ensemble de son e-shop et dans toutes ses boutiques, grâce au code chiffon.
J'avais un parrain qui pour moi était l'homme le plus chic. Je me suis dit, je vais habiller comme ça.
Je me suis battu depuis 2 ans pour ces robes. Parce que je trouve ça indécent.
Je pense que l'élément principal de cette mode est la jeunesse.
C'est affreux tout ça.
Bonjour, je suis Valérie Trib et je vous invite à parler chiffon. Oui, parlons de fringues, de fripes, de frusques, de nippes, de sapes. J'ai créé ce podcast pour analyser votre relation avec votre garde-robe, pour avoir votre vision sur la mode et votre lien aux vêtements. Pour ce faire, chaque semaine, j'invite à ce micro une femme ou un homme, connu ou inconnu, jeune ou moins jeune, pour qu'ils nous dévoilent leur rapport aux fringues. Allez, chiffon, sape, chiffon, c'est parti.
Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je vous invite à découvrir l'univers d'une jeune femme fortement audacieuse. Après avoir passé 1 an et 9 mois dans un grand cabinet d'avocats, Jessica Troisfontaine a plaqué sa robe et son code de commerce pour créer Septem, une marque de prêt-à-porter féminin. Son credo, les combinaisons. Pour elle, les vêtements permettent de transmettre une force et des émotions, mais ils doivent aussi savoir se faire oublier, pour que l'on puisse se concentrer sur le plus important, ce que l'on a à dire et à faire. Bonjour Jessica.
Bonjour Valérie.
Bon, alors explique-moi pourquoi t'as plaqué ton métier d'avocat du jour au lendemain, après une séance de cycling.
Alors, j'ai démissionné parce que j'étais absolument pas heureuse dans mon travail. Et que du coup, j'en ai tiré les conséquences qui s'imposaient à moi. Et effectivement, elles se sont imposées de manière évidente un lundi matin pendant la séance de cycling. Mais c'est un peu, ça remonte un peu avant ça quand même.
Et pourquoi alors, quand t'as quitté ce métier, tu t'es dit voilà, je vais créer une marque de fringues, ou alors tu savais pas du tout ce que t'allais faire?
Non, je savais pas du tout ce que j'allais faire, parce que moi j'avais toujours rêvé que d'une chose depuis que j'étais toute petite, c'est d'être avocate en droit des affaires.
Dès 12 ans.
Et ouais, enfin. À 12 ans, c'est ça exactement. À 12 ans, j'ai dit à mes parents, plus tard je serai avocate en droit des affaires internationales.
Ah ouais, carrément.
Et donc, carrément, et à partir de là, j'ai mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour arriver à mon but. Et donc finalement, quand j'ai commencé à travailler, les premiers mois, c'était encore assez excitant parce que c'est le début, c'est la nouveauté, etc. Mais au bout d'un an et 9 mois, comme tu disais, une fois la nouveauté passée, il ne restait plus rien pour masquer le fait que j'étais pas, que en fait, c'était tout ce dont j'avais rêvé et fantasmé, c'était absolument pas ce qui me rendait heureuse à ce moment-là.
Tu te prenais pour Meghan dans la série Suits, c'est ça?
Ouais, au début, je me prenais un peu pour Meghan. Ouais.
Avec tes talons de 12, les robes crayon.
Ah ouais, j'adorais ça. Je mettais peut-être pas des robes crayon, mais plus des costumes d'hommes avec des talons et des escarpins léopard de 12 cm. Ouais, je m'y croyais à fond.
Alors, j'ai lu pas mal d'articles sur toi et tu évoques souvent cette nécessité d'avoir une armure pour aller bosser. Qu'entends-tu par là?
Alors, c'est pas qu'une armure pour aller bosser, c'est comme tu disais, c'est ma vision des vêtements, c'est d'avoir des vêtements mi-cocon, mi-armure. Et la partie cocon est aussi importante que la partie armure. Pour la partie armure, c'est l'idée d'avoir des vêtements qui vont transmettre de la force et du courage. Parce que ça change tout en fait, au niveau des émotions qu'on a et de ce qu'on ressent, ça change tout en fonction des vêtements qu'on a sur soi. Et à la fois, le confort est hyper important, et c'est pour ça que je parle de cocon. Parce que voilà, le vêtement à un moment doit se faire oublier, on doit pas être engoncé dans ses vêtements, sinon comment est-ce qu'on peut bien travailler, bien réfléchir et bien fonctionner.
Et pour toi, est-ce que le vêtement est un marqueur social? Dis-moi qui tu es, dis-moi comment tu t'habilles, je te dirai comment tu es.
Pas un marqueur social, mais en revanche c'est une émanation de la personnalité. Ça transmet. Je trouve que la façon dont une personne s'habille dit beaucoup de choses d'elle, et en tout cas de ce qu'elle a envie de dégager à ce moment-là. Un marqueur social, après évidemment que pour certains c'est un marqueur social, mais c'est pas obligé de l'être.
Bon, alors comment tu es passé des codes de commerce, codes civils et divers codes et variés d'Alose,
ouais,
à cet amour de la combi?
Alors j'avais déjà l'amour de la combi en cabinet, parce que typiquement c'était la pièce que j'allais mettre pour quand j'avais une réunion importante et que je voulais me sentir forte, pas trop sexy, mais quand même moi me sentir femme et bien dans mes vêtements. Donc ça je l'avais déjà. Et après, entre les deux, je sais pas si ça tu vises, mais entre le moment où j'ai démissionné et le moment où j'ai monté ma marque, qui est spécialisée dans les combinaisons, là, il s'est passé pas mal de choses. Enfin, il s'est passé 3 mois.
3 mois, ce qui est peu quand même.
Ouais, c'était le temps de mon préavis.
Ah, d'accord.
Le temps de me poser pour la première fois de ma vie, pour me demander en fait qu'est-ce qui me plaisait vraiment, qu'est-ce que j'avais envie de faire si je faisais pas du droit, dans quoi je serais bonne, dans quoi je pouvais être bonne, qu'est-ce qui me plaisait quand j'étais enfant mais que j'avais complètement mis de côté parce que je pensais plus qu'à une chose, c'était être avocate sans voir le reste autour. Et là, voilà, il y a eu deux choses qui se sont imposées à moi, c'était la nourriture et les vêtements.
Et donc, non, t'as préféré créer Septem plutôt qu'ouvrir un restaurant.
Alors, franchement, j'aurais pu vraiment basculer du côté de la nourriture parce que c'est vraiment une passion pour moi, mais les vêtements, ça. En fait, c'était pas les vêtements en tant que tels, c'est l'idée de nouveau de créer des vêtements qui pourront apporter de la force aux femmes pour qu'elles se révèlent, qu'elles prennent le pouvoir. C'est un peu tout le mantra de ma marque. Parce que moi, créer ma marque, ça a été en fait ma prise de pouvoir par rapport à ce que je faisais avant.
Mais tout à l'heure, tu me disais en préparant l'émission qu'au départ, t'as eu du mal à assumer de bosser dans la mode.
Ouais. Ouais, parce que j'avais
la petite intello qui devient créatrice de vêtements.
C'est ça. J'avais un côté vraiment complètement intello que j'adorais, franchement.
C'est pas péjoratif.
Pas du tout. Moi, j'étais très contente d'avoir ce côté première de la classe, ma genre de promotion. Ça m'allait très bien d'être avec mes bouquins, etc. Et donc oui, j'ai toujours bien aimé la mode, mais ça me paraissait invraisemblable de faire même des études de mode. Et après, quand j'ai décidé dans tout ce cheminement intellectuel, une fois que j'avais démissionné, de lancer ma marque, l'admettre déjà moi-même, c'était compliqué, et l'admettre aux yeux des autres que j'ai lancé une marque de mode. Oui, à l'époque, pour moi, ça avait l'air d'être beaucoup trop superficiel, alors que j'étais trop bien dans mon image d'intello, quoi. Et c'est comme ça que j'ai trouvé cet angle pour apporter quelque chose de différent que juste une marque de mode. Cet angle de prendre le pouvoir, d'apporter ses vêtements mi-cocon, mi-armée.
En combi.
En combinaison.
Comment étais-tu petite fille au niveau vestimentaire?
J'aimais bien les vêtements, en tout cas, j'aimais bien les vêtements que ma maman choisissait pour moi. Parce que ma maman a beaucoup de goût, elle est très élégante, et elle choisissait les vêtements pour mon frère et moi avec autant de goût, souvent assortis.
Tu as grandi en Belgique, tu es belge?
Ouais, j'ai déménagé en France au moment de mon master de droit. Parce qu'il y avait le master de droit des affaires qui avait l'air incroyable, toujours la même chose. Ah, ça, c'est évidemment. Évidemment. Désolée pour la Sorbonne. Et donc, ouais, non, c'est. J'aime bien les vêtements. Mais c'est, parce que c'est transmis par mes parents.
Est-ce que, justement, tu me parles de transmission, est-ce qu'il y a une tradition vestimentaire familiale chez toi?
Non, il y a le goût des belles pièces et l'élégance. Voilà, mes parents sont tous les deux très raffinés. Et comme je te disais, les souvenirs que j'ai de mon enfance, ça va être le trop beau sac avec un cuir patiné magnifique à travers les années de ma maman que je vais récupérer aujourd'hui, le cachemire ultra doux d'un blazer de mon père. Ça va être le goût des belles pièces, très très loin de la fast fashion et des pièces qui, après deux lavages, n'existent plus ou dont on s'est lassé après deux semaines.
Quel est le meilleur conseil que l'on ait pu te donner au niveau look? Un conseil de ta maman, par exemple?
Le meilleur conseil qu'on puisse donner, c'est de mettre des vêtements dans lesquels on se sent bien, on se sent belle, forte, parce qu'en fonction, on reçoit des autres, en tout cas le pendant, je pense, de ce qu'on dégage, et que si on se sent bien, on reçoit que du positif également.
Quel est ton style au quotidien?
Il a pas mal évolué en fonction de l'environnement de travail dans lequel je suis. Donc, autant avocate, je m'habillais très habillée. J'adorais ça, comme je te disais.
T'étais jeune aussi, je pense qu'il fallait t'imposer, non?
Ouais.
Dans un milieu d'hommes.
Tu vois, la petite minette d'1m63. En plus, j'ai encore l'air jeune, mais j'avais l'air très, très jeune quand j'ai commencé. J'avais 23 ans. Si tu veux, même quand les premières années, à chaque fois j'étais toujours, on me prenait pour la stagiaire à tout moment en réunion. Et voilà, j'avais besoin d'en faire des caisses pour montrer que non, je sais pas, petite stagiaire. Du coup, j'avais mis des Jimmy Choo par dizaines. C'était un peu ridicule, mais voilà. Et quand j'ai démissionné, toutes ces Jimmy Choo, je les ai plus portées pendant un an. J'en voulais plus. Je me suis acheté une ribambelle de basket que j'avais pas le droit de mettre à l'époque en cabinet. Et tout début de ma marque, c'était que ça, très casual avec des baskets et mes combis, du coup. Et en plus, comme je bossais de chez moi, ça te pousse pas vraiment à t'habiller. Et aujourd'hui, où l'équipe vient de s'agrandir après un an, et donc j'ai nouveau un environnement de travail un peu différent, on va bouger dans les bureaux, du coup, je commence à me réhabiller et à reporter pas mal de vêtements que je mettais plus. Donc je ressors toutes mes chemises, j'aime bien remettre des blazers.
T'as un peu plus de responsabilité aussi maintenant.
Oui, quand t'as des gens...
T'es une girl boss.
Je pense que je m'estimais autant girl boss limite que quand j'ai commencé toute seule comme une warrior entre mes cartons dans mon salon. Mais c'est vrai que quand à partir du moment où t'as des gens à payer tous les mois qui comptent sur toi, c'est différent.
Tout à l'heure, tu m'as dit que en fait, tu savais pas si t'avais encore trouvé ton style parce que t'es trop jeune pour le dire.
Non, je pense que j'ai un style à moi, mais j'espère que je vais pas m'arrêter là. Je pense que c'est sympa d'avoir un style évolutif en fonction de, comme tu disais, l'environnement de travail et même de mode, parce qu'on va pas se cacher, même si je m'estime pas du tout à la mode. D'ailleurs, je sais pas ce que ça veut dire. Et c'est bien d'avoir un style qui évolue quand même.
Tu m'as dit tout à l'heure que le rapport que tu as avec ta penderie, c'est l'amour vache.
Ouais, complètement. L'amour vache, parce que autant dans mon travail, je suis hyper structurée, ordonnée, un peu psychorigide, c'est-à-dire un peu plus. Ma boîte mail, elle est ordonnée, mais c'est comme à l'armée. Mmh. Autant ma penderie, c'est l'anarchie la plus complète. C'est vraiment, c'est vrai que je n'ose pas ouvrir les portes de ma penderie, quoi. C'est catastrophique.
Mais... C'est-à-dire que tu l'ouvres et tout tombe.
Ouais, mais en fait, c'est un bordel après organisé. Moi, je sais où sont les choses, mais c'est pour ça que ça va être bien aussi de sortir de chez moi et quand on aura des bureaux. Parce que là, tu sais, entre tous les cartons, les tringles partout, ça aide pas non plus. Hein. Enfin, je me cherche un peu des excuses là, mais.
Est-ce que ça t'arrive de te prendre la tête pour t'habiller?
Pas du tout. Pas du tout, parce que j'ai deux, trois associations qui sont faciles et que j'ai l'habitude de faire pour pas, et qui me font gagner énormément de temps le matin. Et c'est ça qui est aussi bien avec la combinaison. C'est que tu mets une pièce et voilà, et c'est fini. Et c'est comme ça que je vois ma cliente aussi aujourd'hui. C'est voilà, aujourd'hui, on n'a pas le temps de se poser mille questions sur est-ce que ça va avec ça. Et moi, je le vois énormément. Parce que j'ai beaucoup de femmes en fait qui viennent chez moi pour essayer les combis ou récupérer leurs commandes, et il y a une diversité incroyable. Ça va être autant, tu vois, la jeune avocate qui dort pas parce qu'elle bosse tellement et qui va être trop contente d'avoir une tenue clé en main, que la publicitaire de 60 ans qui a son look avec ses Santiago qu'elle met depuis 40 ans qu'elle veut pas lâcher, mais où elle va rajouter juste une pièce, une combi pour accessoiriser le truc. Et c'est ça en fait aujourd'hui.
C'est voilà, important, je me prends pas de dire ça.
Ouais. Alors c'est ça, moi, ma cliente, c'est pas du tout comme on en parlait tout à l'heure, des milléniaux. C'est une diversité incroyable.
Et tu peux dire aussi que la combinaison va à toutes les silhouettes.
Ah ouais. Mais après, il faut trouver la combinaison bien coupée. Et moi, j'essaie vraiment dans mes collections de penser à toutes les morphologies, parce qu'au début, franchement, on va pas se mentir, je pensais à moi et à ce que j'avais envie de mettre. Et dès le début, j'ai senti toutes ces clientes différentes qui venaient chez moi. Et tout le monde n'a pas, fait pas, moi j'en mets 63 en plus, mais tout le monde n'a pas un corps de mannequin, et il faut habiller tout le monde et que toutes les femmes puissent se sentir bien dans leurs vêtements. Et franchement, la combinaison, je pense, enfin, je touche du bois, mais je pense que j'ai réussi à faire des modèles où je vois les femmes quand elles les mettent et qu'elles se retrouvent dans leur miroir, ou les mots d'amour qu'elles m'envoient après pour me dire c'est la première combinaison que mon mec valide, je me sens trop bien dedans, ou genre j'ai décroché un job, je suis sûre que c'est grâce à ma combi. Voilà, c'est fantastique, quoi. C'est ça qui fait la richesse de mon quotidien aujourd'hui.
Quels sont tes basiques? Tu me parlais de basiques tout à l'heure, hormis la combinaison.
Ouais. Alors moi, mes basiques, ça va être plus des... Ce qui est important pour moi, c'est les basiques très parfaitement exécutées. Et ça, aujourd'hui, je trouve qu'il y a plein de jeunes et moins jeunes qui se lancent avec beaucoup d'énergie et énormément de talent à faire des monoproduits comme moi ou des spécialisés dans les basiques. Et tu vas voir, par exemple, dans les chemises, il y a une marque fantastique qui s'appelle Monographie, c'est magnifique. Dans les maillots de bain, il y a Anja, je pense que tu connais, mm-hmm. qui fait des trucs super. Tu vois, c'est une petite marque comme
ça,
moi.
Ça, je valide, oui.
Tu vois, mm-hmm. c'est la même chose, une petite marque comme moi. Tu vas voir des tailleurs aujourd'hui, genre Admis, c'est aussi une jeune. Mm-hmm. Voilà, moi, c'est ou Maison Standard pour des basiques. Moi, je vais plus jouer autour de ça, quoi. C'est pas de...
Quel est le vêtement que tu ne porteras jamais?
La robe d'avocat.
Ah ouais, plus jamais. T'as triché là. Plus jamais.
Franchement, j'ai trop de fois retourné ma veste. typiquement, il y a 4 ans, il m'avait dit que j'avais porté un sac banane. Et aujourd'hui, j'en ai sorti un dans ma collection. Mais c'est, enfin, honnêtement, je peux pas dire.
Quel a été ton pire fashion faux pas?
Alors d'abord, il y en avait pas mal capillaires.
Capillaire.
Ah ouais. C'est-à-dire que j'ai quand même eu, je me suis fait une frange à un moment où, qui me faisait ressembler à Cléopâtre, mais en beaucoup moins jolie. J'ai eu les cheveux super courts façon garçon, et parfois ça a été réussi, parfois beaucoup, beaucoup moins. Sinon, j'ai, alors ça, après des mois de supplications, mon père a craqué et a été avec moi m'acheter en cachette à l'époque les Buffalo. Et ma mère, en fait, avait détesté tellement ça que je pense que j'ai jamais pu passer le seuil de la porte avec.
Est-ce que le regard des autres te touche?
Oui, quand il est bienveillant.
Ah, c'est pas mal. T'as retourné la question, en fait. Est-ce que là, ça t'arrive d'arrêter une femme dans la rue pour lui demander quelle est la marque du vêtement qu'elle porte ?
Tout le temps. Moi, j'adore qu'on le fasse pour moi, donc je le fais tout le temps pour les autres. Tu vois, même à Marseille, on a fait un shooting à Marseille il y a 3 semaines. Et en 2 jours de shooting, il y a 3 dames qui m'ont arrêté dans la rue pour me demander d'où venait ma combinaison.
Ah ouais, ça c'est flatteur.
Ah, mais fierté maximale. C'est-à-dire que moi, ça me fait trop
t'as
plaisir.
T'as donné ta carte de visite et tout.
Ah ouais. C'est vrai que je les distribue comme des bonbons.
Comment t'imagines-tu dans 30 ans? Tu n'as que 28 ans, donc tu en auras 58.
Je m'imagine riche de plein d'expériences en plus que septembre. J'espère encore curieuse de plein de choses. Je pense que je serai assez chic, mais toujours en décalant le truc. Je pense que je serai très chic, mais avec des baskets. Parce que j'ai un petit côté assez tradit, hein, quand même. Enfin, tradit chic.
Tradit chic. C'est comme, mais en fait, c'est ça ton style, tradit chic. T'as pas voulu le dire tout à l'heure.
Non, parce que je suis pas non plus complètement tradit chic, 16e. Non, je décale un peu quand même.
As-tu trouvé le jean de ta vie?
Non, moi j'enchaîne les idylles de 6 mois avec mes jeans.
Des idylles de 6 mois, ouais. Ce sont des CDD en fait.
C'est ça. Mais franchement, je désespère pas parce que quand je vois le rapport que mon mec a avec son jean fétiche APC, qu'il a le même en 10 délavages, il les lave une fois par an, enfin il y a tout un.
Il
les
lave une fois par an?
Ouais, apparemment il faut faire ça.
Oui, par an ou par mois?
Pas par an.
Par an, ah oui.
Après il en a 10, donc. Donc je désespère pas.
Et t'as essayé les APC justement?
Non, mais je lui ai promis que j'allais y aller.
Est-ce que l'accessoire est important pour toi?
Ouais, hyper important.
T'as beaucoup de petits bijoux, très fins.
Ouais, je suis très très bijoux. Effectivement fin. Oui, parce que comme je m'habille de manière très simple et classique, j'aime bien rehausser le tout avec une très belle paire de boucles d'oreilles, des chaussures un peu extravagantes, voilà, un sac sympa.
Et t'es plutôt hit bag ou tote bag?
Alors, j'étais très, très hit-bag dans mon époque d'avocate.
Dans mon époque d'avocate, jadis, il fut un temps.
Jadis, dans mon jeune âge, j'étais très, très hit-bag. Et là, plus du tout, j'ai plus acheté un sac depuis que j'ai démissionné.
Pourquoi?
Et...
parce que tu trouves ça indécent?
Alors déjà, parce que j'ai plus les moyens, on va se mentir. C'est pas du tout le même salaire. Et puis, par ailleurs, ça m'intéresse plus. En fait, ça m'excite plus du tout. Je vais mettre les tote bags septembre et alors tu vois je fais des collabs avec une fille qui fait des sacs elle-même à la main à Paris qui sont magnifiques, qui sont aussi bien faits qu'un hit bag et ça me fait trop plaisir de mettre de l'argent dedans si j'en ai.
Ça il faut le dire souvent que pas la peine de se ruiner dans un hit bag, qu'on peut trouver des petits sacs faits main.
Un peu fouiller. Ouais.
À quelle fréquence achètes-tu des fringues?
Franchement pratiquement plus jamais. Je mets
par force d'être dedans en fait, t'en as marre. Hein.
Ah ouais. Non, en fait, par saison, je vais piocher quelques pièces chez Septem. Et franchement, comme avant, j'avais un peu la folie acheteuse, je recycle énormément de choses que j'avais. Quoi. Mm-hmm. Et j'échange avec mes copines.
Quel est ton dernier achat? Il y a bien un dernier achat quand même.
Un ensemble de sous-vêtements Livy, qui est une marque que j'adore.
Et ton prochain achat?
Je pense une paire d'espadrilles Castaner blanc cassé. Parce que je les avais mises,
c'est ce que t'as au pied là, mais en marine.
Non, elles sont bleu marine. Non, parce que ce dernier shooting, j'avais mis ça sur les mannequins, je trouvais ça canon. Donc je vais peut-être craquer.
Quels sont tes spots fringues? Justement, toi qui fais peu de shopping.
Alors il y en a 3. Ça va être internet avec des jeunes marques où je vais essayer de fouiller. L'armoire de ma maman à Bruxelles et l'armoire de mon mec à Paris.
Ah, pas mal. La fringue de tes rêves?
J'en ai pas une. Après, honnêtement, moi, ce que je dessine comme vêtement aujourd'hui, c'est les fringues dont je rêve. Donc
tu te les fais toute seule, en fait.
Je peux me les faire si je veux, en tout cas.
Que fais-tu des vêtements que tu ne portes plus? Tu disais que tu échangeais avec tes copines.
Ouais, au départ, je les vendais pas mal et j'en donne énormément. J'en donne à mes copines, à ma stagiaire, j'en donne et aux assos, à Emmaüs.
Mais tout le monde va vouloir être ta stagiaire.
Très bien, vous pouvez candidater. À...
Quelle est ta définition de l'élégance?
L'élégance, c'est quand... C'est quand un bel habit est le prolongement naturel d'une belle âme.
Oh, que c'est joliment dit. Le bel habit est le prolongement naturel d'une belle âme.
C'est-à-dire quand des qualités d'éloquence, de simplicité, de bienveillance, de gentillesse vont être mises en valeur par des vêtements qui sont le reflet de ces qualités.
Maintenant, on finit par un petit questionnaire rapide. Tu n'as le droit qu'à une seule réponse.
D'accord.
Si tu étais une couleur?
Un blanc cassé, bien lumineux.
Si tu étais une forme de pantalon?
Flair taille haute.
Si tu étais une chaussure?
Un escarpin très féminin.
Pas des castanères?
Non.
Si tu étais une matière?
Du cachemire.
Si tu étais un bijou?
La bague de fiançailles, la pierre de la bague de fiançailles de ma grand-mère qui est cerclée, qui en a mon temps bracelet que j'aime.
Oh, sublime, je peux le voir, c'est magnifique. Si tu étais un parfum. Le parfum de mon mec.
Non, je te charrie.
Je la charrie parce que je la connais, Jessica.
L'odeur du coup de mon mec au réveil, alors.
Oh, c'est trop mignon. Si tu es terriblement romantique.
Je suis hyper romantique.
Si tu étais un pull.
Un pull en cachemire col rond.
Si tu étais un sous-vêtement.
Un soutien-gorge balconnet bien affriolant Lévis.
Si tu étais une créatrice. Ou un créateur.
Créatrice, non mais je vais pas dire si j'étais une créatrice. J'adore Phoebe Philo, période Céline.
Si tu étais une héroïne.
Un Joker. Il y en a trop, je peux pas en citer une.
Merci infiniment, Jessica.
Merci, Valérie.
Je tiens à remercier aussi Dim ainsi que le magazine Grazia, partenaire de cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, ne vous prenez pas la tête avec vos fringues et portez-vous bien.
Vous avez raté un épisode de Chiffon, voici des extraits des 5 derniers épisodes disponibles sur toutes les plateformes. Laurie Tillman.
Il y a tellement aujourd'hui de manières de consommer la mode autrement et en étant en plus solidaire.
Cécile Rodereux.
Et pas forcément par la mode ou les marques de mode, mais c'est vraiment le produit que j'aime. J'ai un amour pour le produit.
Elisa Gallois.
À partir du moment où t'as la bonne paire de chaussures et le bon sac à main, ta tenue devient ouf. Alors que le contraire ne fonctionne pas.
Mireille Dumas.
C'est un supplice. La cabine d'essayage pour moi est un supplice.
François Gabart.
Je pense qu'une personne qui est élégante est quelqu'un qui est bien en fait.